Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 22 août 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Anne, au sommaire de cette édition.
Le Sénégal a décidé hier de fermer à nouveau ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola.
Au Libéria, calme tendu au quartier de West Point, mis en quarantaine à Monrovia, pendant que l'OMS annonce pour le mois prochain une conférence internationale sur les traitements et vaccins potentiels contre l'Ebola.
Au Nigeria, Boko Haram s'est emparé d'une nouvelle ville dans le nord-est du pays, dans le cadre d'un changement de stratégie.
Ici à Washington, le secrétaire à la Défense avertit que la menace posée par l'État islamique en Irak et en Syrie va au-delà de tout ce que nous avons connu.
Dans la bande de Gaza, un raid israélien a tué hier trois importants chefs militaires du Hamas.
Retrait de la garde nationale à Ferguson dans le Missouri. Ne manquez pas notre page musicale et les sports. En fin d'émission pour l'instant, le journal. Le Sénégal a décidé jeudi de fermer à nouveau ses frontières terrestres avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola. Le ministère sénégalais de l'Intérieur précise dans un communiqué que cette mesure s'étend aux frontières aériennes et maritimes pour les aéronefs et navires en provenance de la République de Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria.
Et au Libéria même, un calme tendu est signalé au quartier de West Point, à Monrovia, la capitale, un jour après les accrochages entre la police anti-émeute et les habitants qui essayaient de lever la quarantaine imposée dans une tentative d'endiguer la propagation du virus Ebola. Au moins 4 personnes ont été blessées par balles mercredi, quand les forces de l'ordre ont usé de balles et de gaz lacrymogènes contre les protestataires qui les lapidaient.
Entre-temps, ici aux États-Unis, 2 missionnaires infectés en Afrique sont sortis de l'hôpital de l'université Emory à Atlanta, en Géorgie, où ils étaient traités contre le virus Ebola. Parmi les traitements subis par le docteur Kent Brantley et Nancy Wrightball, il y a le médicament expérimental, le ZMAP, qu'ils ont été les premiers à recevoir. Mais les médecins ne savent pas si c'est le ZMAP qui les a aidés à guérir de la maladie.
Au Nigeria, Boko Haram s'est emparé hier d'une nouvelle ville dans le nord-est du pays, Bouniyadi. Pour des analystes cités par l'AFP, ce mouvement islamiste armé semble gagner du terrain semaine après semaine.
Selon eux, les insurgés changent apparemment de stratégie depuis quelques mois et cherchent à s'emparer de territoires entiers pour établir un État islamique, alors qu'ils privilégiaient auparavant la tactique de guérilla avec des raids contre l'armée et les bâtiments publics. D'après les habitants qui ont fui la ville ces derniers jours, les combats autour de Bouniyadi, situé dans l'est de Yobe, dans l'état de Yobe, se déroulaient depuis fin juillet et les assaillants islamistes ont finalement pris le bâtiment de la municipalité sur lequel flotte maintenant leur drapeau. Le porte-parole du gouverneur de l'état de Yobe, l'un des 3 états du nord-est du pays placés sous état d'urgence, a confirmé la chute de la ville.
Les États-Unis continuent de suivre de près la situation en République centrafricaine, où cette semaine, les affrontements entre hommes armés et forces internationales dans le quartier musulman de PK5 à Bangui ont fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés. La porte-parole du département d'État américain s'est exprimée ici à Washington hier sur la situation en RCA. Des détails avec Issia Kaba.
Marie Harf a exhorté toutes les parties en Centrafrique à respecter scrupuleusement l'accord de cessation des hostilités conclu en juillet 2014 à Brazzaville. Elle a rappelé le soutien de Washington aux efforts de médiation pour promouvoir la réconciliation intercentrafricaine. Et elle a souligné les mesures déjà prises par le gouvernement américain pour faciliter ce processus.
We've committed up to $100 million for equipment, airlift and training for African and French peacekeeping troops.
Nous avons engagé une centaine de millions de dollars pour fournir du matériel, des transports aériens et de la formation aux troupes africaines et françaises de maintien de la paix en RCA. Cela inclut un don de 37 camions à la force de l'Union africaine et la promesse de 200 véhicules supplémentaires qui commenceront à arriver sur place quand la MISCA passera sous l'égide de l'opération onusienne de maintien de la paix à la mi-septembre, a déclaré la porte-parole du département d'État américain.
En Mauritanie, l'ancien ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould Hadmin, a succédé cette semaine à Moulay Ould Mohamed en fonction depuis 2008. Pour des précisions, Timothée de Langmaï a joint à Nouakchott notre correspondant Brahim Dia.
Le nouveau premier ministre Yahya Ould Hadmin a 61 ans. C'est un peu une petite déception parce que le président Mohamed Ould Abdelaziz avait un peu bâti campagne à l'endroit des jeunes. On le présentait comme le président des jeunes et que le nouveau mandat, ça allait être le mandat des jeunes. C'est pourquoi on s'attendait à un premier ministre jeune. Mais on s'est dit que les choses pourraient être rattrapées parce que les consultations pour la mise en place du nouveau gouvernement ont commencé. Il pourrait y avoir une augmentation du quota des jeunes dans le gouvernement qui verra le jour dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Quels sont les défis qui attendent le nouveau Premier ministre?
Le premier, ça sera celui de la lutte contre la pauvreté. Plus de 40% des Mauritaniens vivent en dessous du seuil minimum de pauvreté, avec un taux de chômage de plus de 30%. Il y a également que l'élection présidentielle passée a été boycottée par la quasi-totalité de l'opposition mauritanienne, qui ne reconnaît pas la légitimité des autorités actuelles. Alors le Premier ministre doit voir comment ramener l'opposition à la table des négociations. Il y a une dernière chose. Les pluies de l'hivernage en cours ont commencé avec beaucoup de retard et c'est une grosse inquiétude au niveau de l'intérieur du pays, notamment des éleveurs et des agriculteurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, estime que la menace posée à la sécurité internationale par les extrémistes de l'État islamique va au-delà de tout ce que nous avons pu connaître en termes de terrorisme. Le chef du Pentagone, qui parlait hier à Washington, a dit que ces militants islamistes en Irak et en Syrie sont plus qu'un groupe de terroristes traditionnels.
Ils sont mieux armés, mieux entraînés et mieux financés que les insurrections armées antérieures, a déclaré M. Hagel, qui a ajouté « Ils constituent une menace imminente à chacun de nos intérêts, que ce soit en Irak ou ailleurs ». Le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes, qui était aux côtés de M. Hagel, a renchéri que l'État islamique a une vision apocalyptique du monde. Selon le général Dempsey, ce groupe peut être défait, mais si seulement on l'affronte en Syrie aussi bien qu'en Irak. Il a également prédit que ce mouvement extrémiste ne sera éradiqué qu'une fois rejeté par les 20 millions de personnes sans pouvoir vivant dans les vastes régions entre Damas, la capitale syrienne, et Bagdad.
Trois importants chefs militaires du Hamas ont été tués dans un raid aérien israélien hier dans le sud de la bande de Gaza. Selon le mouvement islamiste palestinien, il s'agit de Mohamed Abu Shamaleh, Raed Al-Attar et Mohamed Barhoum qui ont été tués dans une maison de Rafah où il dirigeait les opérations contre Israël depuis 20 ans. Trois autres personnes ont été également tuées dans le raid. La veille, la femme, la fillette et le bébé d'un autre dirigeant de l'aile militaire du Hamas, Mohamed Deif, avaient été tués dans un autre raid aérien. Deif est sain et sauf.
Selon le ministre israélien de la Défense, Abu Shamaleh, Al-Attar et Barhoum étaient responsables d'attaques sanglantes contre Israël, dont la mort de soldats israéliens et l'enlèvement en 2006 du soldat Gilad Shalit. Israël, a promis Moshe Yaalon, continuera de cibler les autres leaders du Hamas. Le porte-parole de ce mouvement, Sami Abu Zuhri, a déclaré que ces attaques ne décourageront pas les militants palestiniens.
Ici aux États-Unis, le gouverneur du Missouri a ordonné hier le retrait de la garde nationale de Ferguson, et ce à la suite de près de deux semaines de violences provoquées par la mort de Michael Brown, un jeune noir abattu par un policier blanc. Les précisions de Michel Joseph.
Les troupes de la garde nationale avaient été déployées lundi pour appuyer la police locale face à des manifestants qui n'hésitaient pas à lancer des bombes incendiaires. Dans une déclaration écrite, le gouverneur Jay Nixon a expliqué que la situation à Ferguson s'était nettement améliorée, avec moins d'actes de violence et moins d'ingérence d'instigateurs extérieurs dans les activités de paisibles manifestants de Ferguson. De retour à Washington, le ministre américain de la Justice, Eric Holder, s'est dit de son côté solidaire des habitants de cette banlieue de la ville de Saint-Louis. Alors que je m'étais rendu à Ferguson pour rassurer les gens, ils m'ont en fait donné espoir. Mon engagement est que plus tard, lorsque cette histoire tragique ne fera plus l'objet d'un tel niveau d'attention, le ministère de la Justice continuera de se tenir aux côtés de Ferguson, a déclaré Eric Holder. La police de Ferguson et le ministère américain de la Justice mènent des enquêtes séparées au sujet de la mort de Michael Brown le 9 août dernier.
En Russie, enfin, trois restaurants de la chaîne américaine McDonald's ont été fermés pour manquement aux normes sanitaires. Mais déjà, certains critiques voient derrière cette décision des motifs politiques. Lola Akomachri.
Les autorités sanitaires ont entamé des inspections tous azimuts dans les restaurants de la chaîne McDonald's dans toute la Russie. Depuis mercredi, trois restaurants du géant du fast-food ont été fermés. L'Agence russe de protection du consommateur affirme avoir constaté de nombreuses violations des normes sanitaires. La chaîne risque des amendes dépassant les 10 000 euros et des périodes de fermeture atteignant 90 jours pour les restaurants concernés. Dans un communiqué, McDonald's affirme prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Pour les critiques, il s'agit de représailles de l'État russe contre les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. La Russie, en retour, avait déclaré un embargo sur les produits provenant des marchés américains et européens. McDonald's est implanté en Russie depuis 1990 et compte aujourd'hui 438 restaurants dans le pays. Son premier restaurant sur la place Pouchkine de Moscou est aujourd'hui l'un de ses plus fréquentés au monde.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, La Voix de l'Amérique. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier qu'elle organisera le mois prochain une conférence internationale sur les traitements et vaccins potentiels contre l'Ebola. En attendant, les pays s'organisent comme ils peuvent pour faire face à la situation. Ainsi, la Guinée a déployé hier une centaine de médecins et volontaires à ses frontières avec la Sierra Leone et le Libéria. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Conakry Nika Alexander du Centre sous-régional de coordination de la réponse à l'épidémie d'Ebola.
L'important, à notre point de vue, c'est qu'il y ait des médecins, des infirmières, des travailleurs de santé dans les centres de traitement surtout, et aussi un travail important qui a lieu sur le terrain, c'est le suivi des contacts. Donc, de trouver toutes les personnes qui ont pu être en contact, surtout des contacts étroits, avec une personne qui a été atteinte de l'Ebola, pour pouvoir les suivre pendant 21 jours et s'assurer que si jamais ils développent des symptômes, ils vont directement dans des centres de santé.
Le Libéria voisin a mis en quarantaine quelques 75 000 personnes. Est-ce que c'est une mesure réaliste?
Lorsque l'OMS a déclaré que cette épidémie d'Ebola était une urgence au niveau international, l'OMS a aussi fait des recommandations pour les pays qui sont atteints de l'Ebola. Donc, les trois pays les plus atteints maintenant, c'est Sierra Leone, Guinée et Libéria. Et parmi les recommandations, c'était que parfois, les quarantaines devront se faire, des cordons sanitaires. Mais le plus important, c'est de continuer à soutenir les personnes qui sont dans ces zones d'isolation, qui ont des centres de traitement, ce qui existe maintenant dans la zone, que ces centres ont le personnel nécessaire, que le personnel ait le soutien nécessaire et que ça ne vient pas une zone morte, mais plutôt une zone de traitement.
Et certains pays envisagent de différer ou même d'annuler des conférences internationales ou des rencontres sportives du fait de l'Ebola. Est-ce que c'est une recommandation?
Pas du tout. En effet, c'est le contraire. L'OMS demande à tous les pays, à toutes les entreprises, de baser leurs décisions sur une base scientifique, de regarder est-ce que l'Ebola se répand dans les avions. La réponse est que le risque est minime. Mais ce qui est un plus grand risque, c'est de détruire les économies de ces pays dans le milieu d'une souffrance médicale. Il faut dire que je suis à Conakry et c'est la vie normale ici. Il n'y a pas de raison que les avions n'entrent pas. En plus, les aéroports dans les pays affectés ont institué des mesures justement pour contrôler le départ de leurs passagers. Jusqu'en ce moment, nous avons vu beaucoup de rumeurs dans d'autres pays, des rumeurs d'avoir des cas d'Ebola. Mais à part le passager qui a voyagé au Nigeria il y a plusieurs semaines, il n'y a pas eu une personne qui est sortie de ces pays avec l'Ebola.
C'était Nika Alexander du Centre sous-régional de coordination de la réponse à l'épidémie d'Ebola, jointe à Conakry.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Au Mali, le premier jour de la grève de 48 heures de l'UNTM a été bien suivi hier. C'est le constat que notre correspondant a fait sur le terrain. Dans certains services publics et privés, la grève générale lancée par l'Union nationale des travailleurs du Mali a été bien suivie à Bamako, mais le service minimum était assuré par certains agents dans les hôpitaux et centres de santé communautaires, nous dit Kassim Traoré.
En ce premier jour de grève, le mot d'ordre de l'Union nationale des travailleurs du Mali a été suivi selon son secrétaire général Yacouba Katilé.
La grève a été suivie régulièrement, conformément en tout cas à ce que nous avons quand même fait des Gao en passant par Mopti, Sikasso, Tegu, Bamako jusqu'à Kaï. Et les mots d'ordre ont été suivis vraiment 100%. Je l'ai dit parce qu'il y a même certaines structures qui ne sont pas affiliées à l'UNTM qui ont observé en même temps que nous.
Cependant, dans la ville de Bamako, le transport en commun a bien fonctionné.
Il y a d'autres également qui effectivement ne sont pas habillés à l'UNTM, qui n'ont pas voulu suivre. J'ai fait allusion vraiment à certains militants de la CSM ou au niveau des transports, certains sont habillés à la CSM qui n'ont pas observé.
La grève de l'UNTM a été sentie au niveau de l'administration d'État, les banques, les hôpitaux, de même que dans certains marchés.
L'appel que j'ai lancé au syndicat, c'est que d'abord je les félicite pour vraiment tout ce qui a été fait et que ça a été fait avec la manière. Je leur demande encore de serrer les ceintures d'avant. Parce que la lutte syndicale est une lutte perpétuelle. On n'a pas encore fini, on a d'autres enjeux.
Après cette grève de 48 heures, l'UNTM fera le bilan ce vendredi avant de projeter d'autres actions. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À l'instar d'autres localités du Mali, les travailleurs de Mopti, affiliés à l'UNTM, ont respecté le mot d'ordre de grève décrété par la centrale syndicale. Nous dit de Mopti, notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Constat, les mots d'ordre semblent être bien suivis à Mopti, nous confirme Waraba Kone, secrétaire général de la coordination régionale de l'UNTM.
Je viens de faire le tour de la ville de Mopti, la grève a réussi. L'efficacité d'un syndicat se mesure par sa capacité d'atteindre l'objectif qui est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, donc l'aboutissement des revendications qui se trouvent dans le cahier des doléances présenté au gouvernement.
Ce cahier des doléances comporte 17 points revendicatifs sur lesquels 12 ont été acceptés. Malgré tout, la centrale syndicale a maintenu son mot d'ordre de grève. Waraba Kone explique la raison de ce maintien.
On dit en français que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Effectivement, il y a eu 12 points d'accord. Mais les 5 points de non-accord concernent la finance. Nous luttons pour l'intérêt des travailleurs. Et l'intérêt des travailleurs, c'est financier. Bon, si nous n'arrivons pas à obtenir ces points financiers, c'est très difficile. Même si on avait atteint ces 5 points-là et laissé les 12 points, l'UNTM allait lever le mot d'ordre de grève. Mais ce qui est moins palpable, le gouvernement a accepté ça. Ce qui entre directement dans la poche des travailleurs, le gouvernement n'a pas voulu prendre ça au sérieux.
Le Mali vient de sortir d'une crise politico-sécuritaire qui a ébranlé l'économie nationale. La grève est-elle nécessaire en cette période? Le secrétaire général de la coordination régionale de l'UNTM répond.
Nous sommes convaincus que la situation économique et sécuritaire du Mali ne se prête pas, je le répète, ne se prête pas à la grève. Mais il faut reconnaître que le cahier des doléances est déposé depuis 2011. Ça devait être même appliqué en 2012. Ça n'a pas été fait. Et l'administration est une continuité. Nous pensons que la satisfaction des doléances de l'UNTM là va aboutir à une stabilité sociale. Nous sommes conscients de la situation actuelle, mais nous sommes obligés parce que ça a trop traîné.
La grève a été observée à Mopti, certes, mais le service minimum a été également assuré comme le stipule le décret numéro 90-562 PRM du 22 décembre 1990. Après ces 48 heures, si rien n'est fait, l'Union nationale des travailleurs du Mali projette de mettre en œuvre d'autres stratégies. Mamoudou Bokoum à Mopti pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, 61 journaux ont été interdits de parution. Le gouvernement a pris cette décision pour assainir l'espace d'information, selon un communiqué du ministère des Médias, qui accuse ces journaux de ne pas être en règle vis-à-vis du fisc ou de la réglementation. Pour les organisations de défense de la presse, cette mesure est excessive. Selon elles, le gouvernement aurait dû accorder un moratoire à ces médias pour qu'ils continuent à informer. Sarah Diaby a contacté à Kinshasa Chivis Chivuadi, secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger.
Il n'est pas possible de pouvoir soutenir qu'il y ait des médias qui fonctionnent effectivement sans être en règle avec la loi et sans avoir une existence légale. Mais en même temps, nous ne pouvons pas ne pas regretter le fait que c'est une décision qui essaye de restreindre les espaces de liberté et d'expression. C'est une décision assez lourde parce qu'elle frappe plus de 60 organes de presse. Et quand on analyse bien la liste qui a été publiée, vous trouvez là-dedans des organes de presse qui ont été sanctionnés parce qu'ils ne sont pas en ordre avec le fisc. D'autres ont été interdits parce que selon le ministre, ils ne sont pas parus pendant de longues périodes. Et d'autres encore, ils ont été fermés parce qu'ils ne disposent pas des documents en règle de pouvoir fonctionner. Je crois qu'il y a dans cette liste beaucoup de confusion et d'amalgame, mais en tout cas, il y a une sorte de précipitation que les faits se justifient parce qu'il n'y a aucune urgence qui peut empêcher à ce que le ministre puisse accorder un moratoire à ses organes pour leur permettre de pouvoir se mettre en règle et continuer à fonctionner.
Vous, à votre niveau, en fait, qu'est-ce que vous faites pour que les choses changent?
Ben, nous avons demandé à ceux qui ont été sanctionnés de pouvoir introduire des recours au niveau du ministère qui les a sanctionnés pour pouvoir justement négocier des échéanciers de paiement pour ceux qui ne sont pas en ordre avec le fisc. Et pour les autres dont certains documents ne sont pas en ordre, je pense qu'il s'agit simplement de leur donner le temps pour qu'ils entrent en contact avec l'administration concernée pour pouvoir se mettre en ordre. Mais l'autre question que nous posons, c'est de savoir s'ils rentrent effectivement dans les prérogatives d'un ministère qui est en charge de médias, qui est un ministère qui a une coloration politique, s'ils reviennent à ce ministère de pouvoir sanctionner ces médias, là où nous avons ici dans ce pays une instance publique de régulation des médias, c'est-à-dire le Conseil supérieur du visuel et de la communication, qui est, je pense, l'instance qui est chargée de réguler les médias et donc de connaître qui sont ou qui ne sont pas en ordre avec l'administration ou avec des documents pour pouvoir fonctionner. Je pense que là, quelque part, il y a un peu une sorte de usurpation de rôle de la part du ministère qui essaie d'empiéter sur les prérogatives du Conseil supérieur de l'usage et de la communication. Et là, ça risque de prendre des connotations tout à fait politiques.
Chivis Chivuadi, secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger, joint à Kinshasa. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Confédération africaine de football examinera mercredi prochain au Caire l'appel déposé par la Fédération rwandaise.
Oui, la FERWAFA conteste sa disqualification des éliminatoires de la CAN 2015. Les Guêpes du Rwanda avaient été éliminés, souvenez-vous, après avoir aligné un joueur disposant de deux identités différentes, Dadi Birori alias Etekiama Agiti Tadi. Le Rwanda plaide la bonne foi et demande à être réintégré dans le groupe A des éliminatoires avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Soudan. Mais pour le moment, c'est toujours le Congo repêché qui doit affronter le Nigeria à Calabar. Ce sera le 6 septembre.
Après la CAF, la FIFA se veut rassurante quant à l'organisation des compétitions malgré le virus Ebola.
Oui, l'instance du football mondial confirme que la Coupe du Monde des clubs 2014 se tiendra au Maroc en décembre prochain. En tout cas, dans un communiqué, la FIFA a tenu à nier ces rumeurs en précisant que pour le moment, aucun cas d'Ebola n'a été recensé au Maroc.
Super Mario en route vers l'Angleterre.
L'attaquant du Milan AC, Mario Balotelli, serait sur le point d'être transféré à Liverpool contre une indemnité de 20 millions d'euros. C'est ce qu'indiquent en tout cas les médias italiens. Après moins de deux ans passés à Milan, l'attaquant de 24 ans s'apprête à retrouver la Premier League qu'il connaît bien pour avoir joué à Manchester City entre 2010 et 2013.
Merci Nicolas. À présent, notre page musicale et que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce matin en l'absence du jeune frère Roger Muntu. Appartenant à une plus vieille génération de mélomanes, je m'intéresse particulièrement à la soul des années 60 et 70, une musique qui, après toutes ces décennies, fascine toujours ses fans. Mais qu'est-ce la soul ? On a dit que seules certaines personnes ont de la soul, mais le grand King Curtis ne le pensait pas. Dans ses déplacements à travers le monde, il s'était rendu compte que tout le monde avait de la soul. Si la musique vous donne envie de danser ou de pleurer, vous avez de la soul. La musique peut être les pleurs d'un bébé qui vient de naître. Elle peut être les prières d'un homme qui gémit à genoux, le visage triste d'une femme au cœur brisé, ou la douceur de mots comme « oui ». Tout cela, c'est de la soul, nous rappelle King Curtis. Ce à quoi j'ajoute que la musique est rendue plus douce encore quand on est accompagné à la guitare par le soulman Bobby Womack et son complice blanc d'American Studio à Memphis, Reggie Young, qui incontestablement avait de la soul.
It's been said that only some people have soul, but I don't believe that. Because in my travels around the world, I've found that everybody has soul. Now, some people may say it different depending upon where they may have been reared. It's best said through music. And if this music makes you feel like you want to dance, or if it makes you feel like you want to cry, that music has soul. While on his knees, the sad face of a woman with a broken heart, or the sound of those two sweet words, I do, but all of this is soul.
King Curtis, This is Soul. À côté des grands de la soul, il y avait des noms obscurs comme Spencer Wiggins de Gold Wax, un label de Memphis dans le Tennessee. On l'écoute accompagné ici par nos amis d'American, dont le légendaire guitariste Reggie Young dans ce très soulful I Can't Get Satisfied.
But I'm so tired of playing second man, baby. Sick and tired of
I Can't Get Satisfied de Spencer Wiggins. Alors, je vous donne rendez-vous tous les dimanches à 19h, temps universel, dans Seoul, USA. Alors, c'est terminé pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Idriss Asedouya en compagnie d'Anne Albertson. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Just a portion, baby.